qui est-ce qui connaît les ressources tenues de classe qui sont sur donc le site du CNDP et qui sont dans les DVD. Il y a des ressources premiers, des ressources second degré.
Des objectifs pédagogiques qu'il se fixe chaque jour. Le matin, à l'accueil, il peut favoriser...
C'est le puzzle de quoi ?
De la couverture
de l'album Rafara.
Le parler professionnel de l'enseignant à l'école maternelle doit être un parler exemplaire. Il doit permettre à l'enfant de saisir immédiatement le sens de l'activité, par exemple, que l'enseignant va proposer.
Alors, avant de commencer, je voudrais savoir si vous savez ce que c'est un double.
En fait, les doubles, c'est par exemple quand on lance 2 dés, et que sur un dé, il y a 6, et sur l'autre dé, il y a 6.
6 et 6,
ça fait 12.
Ça fait 12. Donc, le double de 6, c'est 6, c'est encore
6.
Ça fait
12.
Le parler professionnel doit être composé très précisément d'une syntaxe correcte et élaborée.
Quand vous êtes arrivé à l'école, il y a des enfants qui ont donné à manger au mandarin. Alors, qui a donné à manger au mandarin ? Sacha, qu'est-ce que vous lui avez donné à
moi ? Moi, de la semoule.
De la semoule. Et toi, Alessio, tu leur as donné quoi ?
J'ai donné des graines.
Des graines ?
Moi aussi.
Qui leur a donné à manger ? La femelle ?
Ils mangent tout seul.
Ça y est. Cette fois-ci, ils peuvent manger tout seuls. On a déjà vu la femelle donner à manger dans le bec.
Ils sont assez grands.
Ils sont assez grands. Mais c'était il y a longtemps.
Comme ils sont sortis du panier.
Oui, ils sont sortis du nid. Ils sont sortis du nid. Et maintenant, ils mangent
tout seuls.
Ils mangent tout seuls.
Et puis, je dirais également que le parler professionnel de l'enseignant, il a cette particularité d'une mise en mots détachée où l'enfant peut saisir que les phrases sont constituées non pas d'un ensemble, d'une chaîne sonore, mais d'un ensemble de mots.
La pomme, très bien, Naba, viens.
La pomme,
et tu la montres à tout le monde très haut, hein. Bravo, le papillon. Bravo. Mes mains, je les retourne, je les regarde, je les croise, j'accroche les pouces.
Pimpanicaille, le roi des papillons, en se faisant la barbe, se coupa le menton. 1, 2, 3, 2, doigts, 4, 5, 6, 8.
Bravo.
Bien. Pour faire autorité dans une classe, l'enseignant donne des repères aux élèves pour créer un climat propice aux apprentissages.
Alors, bonjour à tous. Le programme, conjugaison, un nouveau jeu qui s'appelle Bonne Pioche, je vous l'expliquerai. Ensuite, en mathématiques, nous allons continuer les activités de résolution de problèmes avec comme objectif d'identifier les étapes intermédiaires dans la résolution d'un énoncé. Ensuite, en français, nous continuerons notre projet Apprendre à comprendre les textes, L'homme à l'oreille coupée, vous vous souvenez ? Voilà. L'histoire, nous continuerons également l'Union européenne. Et enfin, un jeu de calcul mental et préparation à l'évaluation en histoire sur la leçon. On y va ?
Il doit trouver un juste équilibre entre fermeté et bienveillance. Il porte une attention à chaque élève tout en gardant un regard sur le collectif. Chaque enseignant utilise des techniques qui lui sont propres pour poser son autorité.
Pour comprendre le sens, Hirsel, s'il te plaît. Oui ?
Eh, hey, dis donc là !
Mais normalement...
Tu vas me ranger ça une fois pour toutes, excusez-moi. Non, tu le ranges. Tu vois que je peux crier quand même, hein ?
Pour le travail de groupe, nous avons mis en place un système de feu tricolore.
Si on est en pleine activité et que le feu devient rouge, qu'est-ce qui se passe ?
On arrête tout.
Sandy ?
On arrête tout.
On arrête tout et on attend. Quand c'est orange, c'est que ça commence à devenir embêtant. Donc, on... qu'est-ce que... si ça devient orange, qu'est-ce qu'on doit faire?
On se tait.
Dalia?
On doit se taire.
On doit se taire ou parler moins fort. Si c'est vert, tout va bien.
Mais l'autorité, c'est aussi un travail avec les familles. Des relations suivies avec les parents facilitent la régulation de certains comportements.
Pour impliquer les parents dans la scolarité de leurs enfants, il y a plusieurs procédés qui sont mis en place dans la classe. Nous avons d'abord le tableau de comportement qu'ils découvrent chaque vendredi soir. J'ai également une correspondance régulière dans le cahier de liaison avec certains parents, notamment les élèves qui sont en difficulté. Je vois beaucoup plus ces parents-là pour leur signaler certains problèmes, que ce soit dans le comportement ou dans le travail. Des réunions également ont lieu... sur le premier trimestre et le deuxième, pour la remise des carnets. Cela permet d'expliquer aux parents le fonctionnement de la classe, donc vraiment au premier trimestre, et continuer l'explication des carnets d'évaluation sur le deuxième.
S'il y a contestation, vous faites quoi ?
Quand un élève sort de ses gonds et se met à insulter l'enseignant, je reste très calme. Je verbalise que ce qui vient d'être dit ou ce qui vient d'être fait est grave, que ça donnera lieu à un rapport. Et puis, je repasse au cours en ralentissant le débit, aussi pour calmer l'élève. On remarque en général un élève qui a commis quelque chose de très grave dans le cours, à qui on a annoncé que c'était très grave, que ça donnerait lieu à un rapport. Ensuite, il a tendance à ne pas travailler, certes, mais à se coucher sur la table. Donc on continue le cours et puis ensuite on fait naturellement le travail d'éducation avec le rapport, l'écoute de l'élève et puis les sanctions proportionnées. Sur l'insolence, j'ai remarqué l'utilité qu'il y a à faire comprendre à une élève que ce qu'il dit va avoir des conséquences, c'est-à-dire à prendre note tout de suite des propos de l'élève tels qu'ils ont été proférés. Enfin, je pense par exemple à une élève qui cette année m'a dit vous êtes un bouffon de toute façon. Donc j'ai toujours ma pochette dossier discipline sur le bureau à portée de main durant les heures de cours que je sais les plus difficiles. Donc je tourne tout de suite la première page et puis j'ai mes fiches incidents scolaires qui sont déjà signées, donc ça va très vite avec mon nom qui est déjà inscrit. Donc j'ai juste à ouvrir les guillemets et puis à reporter les propos de l'élève. Vous êtes un bouffon, d'accord ? Et là, l'élève m'a fait « De toute façon, vous pouvez en parler à mon père, je m'en bats les couilles. » J'ouvre les guillemets. « Vous pouvez en parler à mon père, je m'en bats les couilles. » Je n'ai pas manqué de le faire, bien sûr, le soir. Et l'élève a tout de suite compris que tout ce qu'elle pouvait continuer de dire pouvait être retourné contre elle. On travaille beaucoup mieux en matière d'éducation quand on peut être précis sur les propos qui ont été proférés par l'élève pour pouvoir lui faire comprendre la gravité de sa faute et puis entamer le travail de prise de conscience.
Moi, je pense qu'il faut parler à l'élève. Il faut parler à l'élève, éventuellement, il faut voir les parents, mais moi, je pense que c'est un peu en dernier recours. Alors bon, moi je suis pas prof principale, donc si j'avais été prof principale, peut-être que j'aurais demandé un rendez-vous aux parents, je sais pas comment j'aurais fait. Mais dans cette situation-là, j'ai essayé de négocier ça directement avec l'élève, quoi. Pas mettre les parents dans l'affaire, quoi. Parce que je crois que l'élève, il a besoin vraiment d'être en confiance avec l'enseignant. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses. Il faut essayer, comme je disais déjà, essayer de respecter la règle qui a été établie entre l'enseignant et l'élève en difficulté. Évidemment, pénaliser quand c'est pas possible, quoi. Mais essayer quand même d'avoir une relation de confiance. Parce que s'il y a pas de confiance, donc si on va voir les parents, c'est un peu comme si on trahissait l'élève, quoi, en disant, bon, bah, finalement, je vais voir tes parents, je vais leur dire que tu te comportes pas bien en classe. Voilà. Donc, moi, j'essaie de pas passer par là, d'essayer de voir avec l'élève comment on peut faire en sorte que ça se passe mieux en classe, quoi. Mais c'est pas toujours facile, ça, j'avoue que...
Je vous laisserai commenter la vidéo de Sébastien Claire, je fais pas. Droit de réserve. Non, mais simplement sur les deux premières. Enfin, moi, je suis assez marqué par la norme prescrite. C'est-à-dire qu'on voit très bien l'entreprise de normalisation Et il faut qu'à un moment donné aussi, il y ait des repères. Enfin, là-dessus, je trouve ça à la fois nécessaire de rappeler un certain nombre de règles et de façons d'agir dans la classe. Quand on parlait du parler professionnel, c'est vrai que si on regarde ce que font les débutants sur leur première... enfin, il y a des gens qui connaissent très, très bien, en tout cas, ces jeunes profs. Dans le second degré, ceux qui travaillent dans la cité, assez rapidement, ils se laissent happer par un langage cité, faisant qu'ils commencent à parler pratiquement le même langage, à interpeller les élèves avec les mêmes joutes oratoires. Et c'est vrai que dans les autoconfrontations, beaucoup s'en sont dit, mais je parle aussi mal que ça, et ont essayé de revenir un peu en arrière pour essayer de repolisser leur propre vocabulaire. Et là aussi, il me semble qu'il y a des étapes dans ces premières interactions, premières expériences avec ces élèves-là, pour trouver la bonne distance et la bonne hauteur de vocabulaire. Alors, ce que montre la première vidéo, c'est la nécessité quand même de parler avec beaucoup de rigueur et d'exigence, pour montrer que le parler d'un enseignant doit pas être le parler de sens commun ou celui de la cité. Donc il me semble que la règle est nécessaire et il faut la rappeler peut-être parfois. Par contre, le travail ici ne met pas du tout en avant les difficultés des débutants, par exemple sur le parler professionnel, et éventuellement ces étapes de transformation, de développement de ça. Si Phil Vérune nous fait une banque de données sur des jeunes profs du premier degré dans leur premier pas concernant l'oralité en classe et la nécessité, enfin la construction du dialogue dans la classe, on va pouvoir voir quelles sont les difficultés des débutants, par quelles étapes ils passent, quelles sont, enfin, vous voyez, pour essayer de reprendre un peu un esprit néopas de développement et de compréhension de ce que sont les jeunes pour tendre vers le haut. Mais si on me fait voir simplement cette norme-là, moi je suis super intimidé, je dis bon, je peux pas être prof parce que je suis pas capable de tenir cette exigence orale dans mes premières interventions. Enfin, je trouve que ça peut traumatiser en même temps. Hein. Enfin, je sais pas comment vous. Premier témoignage.
Ouais, pour moi je découvre hein, ces vidéos, donc c'est toujours difficile de donner un point de vue, mais puisqu'on est quand même sur une entrée activité, on a parlé beaucoup de travail réel, travail prescrit, bon, je ne sais pas exactement si la tenue de classe c'était une ressource, comment ça a été diffusé, etc., quelles étaient les finalités, mais moi ce qui m'a le plus marqué, si vous voulez, c'est le discours l'enseignant doit. C'est un discours de prescription extrêmement surplombant, avec toujours le point de vue d'une pratique experte. Je sais pas, vous mettez ça dans les mains d'un entrant dans le métier, il dit, bon, ben, l'enseignant doit, mais moi je sais pas comment on fait. Quoi. Donc à la fin, cette espèce de synthèse de bonne pratique, il faut être capable de, il doit faire ceci, ceci, cela, c'est une liste d'injonctions liées à des compétences, mais encore une fois... Et je m'y prends comment, moi, pour faire ça? Je m'y prends comment pour faire respecter les règles? Voilà. Donc, cet outil, ou cette plateforme, ou ce CD-ROM, il sert à quoi? J'aimerais savoir, moi, s'il y a quelqu'un ici qui connaît mieux, il a été conçu et diffusé à quelle fin? Pour donner une incarnation multimédia au référentiel des 10 compétences de l'enseignant? Ok. Pour faire quoi? Parce qu'il y a un sacré investissement financier pour faire un truc comme ça, le diffuser sur toute la France. Donc, je vois pas, en tout cas, moi, je ne vois pas en quoi ça, c'est une ressource de formation. Donc forcément, pour moi, c'est autre chose.
Non, mais j'ai juste envie de réagir par rapport à ça, parce que moi, je vois un intérêt à montrer des vidéos comme ça, certaines en tout cas, d'autres pas du tout. Mais par exemple, celle sur la maternelle, je me dis qu'il y a des étudiants qui vont rentrer dans des classes de maternelle sans se rendre compte, sans savoir à quoi ça ressemble, parce que c'est trop loin de... Enfin, ils y sont passés, mais ils s'en souviennent plus, ou alors ils se souviennent juste de la cour de récréation et du bac à sable. Et je me dis qu'il y en a qui... Enfin, c'est le cas hein, actuellement. Il y en a qui rentrent quasiment dans les classes sans jamais... avoir fait plus que quelques stages d'observation très rapides qu'on a pu leur organiser dans le cadre de la formation. Donc moi, je vois un des objectifs de ces vidéos-là, c'est de pouvoir se sensibiliser avec un milieu qu'on est en train de découvrir, de voir à quoi ça ressemble, pourquoi est-ce qu'il y a des dessins partout, pourquoi les enfants sont disposés de telle manière, quelles sont les intonations de voix qu'on utilise pour parler à des tout-petits, quels sont les outils dont on va avoir besoin. Je ne sais pas si vous voyez les belles couleurs et tout ça sur ces vidéos, tout ce matériel pédagogique qui est présent, qui peut... enfin voilà, je ne sais pas si ça, enfin, pour moi, certaines vidéos peuvent servir à ça, se rendre compte de ce qu'un élève peut faire. Mais c'est je mesure la gravité de ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est quelque part un peu ça. Après, pour moi, mais alors ça c'est ce que je pense tout de suite, c'est une façon de dire qu'on continue à prendre en charge une part de la formation en se disant que ce support-là ou cette ressource-là est suffisante pour rentrer dans le métier ou pour du moins une première sensibilisation au métier. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais là, j'en dis pas plus, quoi.
Bon, là, j'ai pas une expérience maternelle, parce qu'en Suisse, on dit école enfantine, mais j'ai 20 ans de métier dans l'école enfantine. Et ce qui me préoccupe dans ce type de vidéo, c'est que il me semble qu'on est plutôt en train de conforter l'idée que l'école enfantine, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est un monde assez idéal avec des enfants sympas, qui sont calmes, plein de couleurs. Et première vidéo, on arrive, 6, le double, ça fait 12. Ok. C'est pas ça l'école enfantine. C'est pas ça la maternelle. Alors je crois qu'on est vraiment dans une idéalisation du monde enfantine qui n'est pas du tout la réalité à laquelle vont être confrontés les enseignantes et les enseignants qui vont y débarquer. Et puis pour par rapport au langage, moi ça me fait penser à, on l'appelait Fifine, c'était Joséphine Briguet, c'était l'archétype de la maîtresse enfantine qui était sortie de l'école normale et qui articulait. Ouais, faut remontrer, mais je sais pas.
Allez, on continue. Moi, je vais réagir parce que j'ai utilisé certaines vidéos de tenue de classe avant la prise de fonction des fonctionnaires stagiaires cette année, et notamment pour mettre en débat certaines pratiques qui sont préconisées et apporter la controverse qui manque à cet outil. Et notamment pour signaler, par exemple, le danger qui consisterait à faire ce que préconise Sébastien Clerc, à savoir arrêter son cours pendant de longues minutes en répétant les insanités dites par des élèves pour les noter à l'écrit. C'est le meilleur moyen pour avoir le bazar dans la classe immédiatement, surtout en lycée professionnel, qui est un milieu que je connais bien. Voilà, donc j'ai utilisé effectivement ces vidéos, mais encore une fois pour apporter la controverse qui est absente de l'outil et pour montrer aussi une pluralité de pratiques à des fins, alors en complément avec Néopass, pour avertir les fonctionnaires stagiaires qui ne connaissaient pas le public auquel ils allaient avoir affaire une semaine après et essayer de construire de premières postures d'enseignants en évitant les errances des bêtises possibles.
Alors je vais juste essayer de resituer un peu historiquement cette vidéo. Elle est apparue il y a 2 ans dans l'Académie de Créteil. Pour les stagiaires néo, puisqu'il s'est monté il y a 2 ans une formation gestion de classe pour les néo titulaires de l'Académie de Créteil. Et je vais relativiser moi un peu l'impact de cette vidéo, puisque je récupérais les néo dans des formations disciplinaires après qu'ils aient eu cette formation tenue de classe. Sébastien Clerc leur faisait d'ailleurs une intervention en amphi et en leur présentant la vidéo. Je vous rassure, les stagiaires ne sont pas, enfin les néo ne sont pas si dupes que ça. Et certains d'ailleurs qui avaient essayé, alors pour vous donner une anecdote, certains avaient essayé la technique, je sépare les élèves qui bavardent, technique de Sébastien Clerc qui était expliqué un moment dans la vidéo et qui avait dit, on en a mis un bout de la classe et l'autre à l'autre bout, et ils se sont mis à bavarder dans la diagonale de la classe, donc ça a été pire. Bon, et en faisant discuter les stagiaires néo sur cette vidéo, de toute façon ils ont par eux-mêmes souvent démonté ce qui était proposé par Sébastien Clerc lui-même.
Juste un témoignage, j'ai entendu une néo-titulaire, enfin non, une professeure stagiaire en début d'année, là, parler justement de cette ressource-là, et disant la chose suivante, voilà, j'ai été reçu au concours, j'ai su mon académie d'affectation au mois d'août, l'établissement, je l'ai su... le 23 août, j'ai essayé d'appeler pour savoir quelle classe j'avais, C'était fermé. Et puis finalement, le 25 août, le chef d'établissement m'a appelé pour dire que j'avais 3 classes. Normalement, c'est que 2. Mais... Et puis en plus, je suis sur plusieurs établissements. Il faut quand même que je vous dise. Et donc, je suis parti avec ça et je rentrais une semaine après. Et donc, j'ai commencé à préparer ma rentrée. Quand, la veille de la rentrée, j'ai eu une formation dans mon académie sur la gestion de classe. Et dans cette formation, on m'a dit comment il fallait que je fasse. Donc, on a repéré Sébastien Clerc et on nous a donné un certain nombre de conseils. Et la collègue disait, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a déstabilisé, parce que moi, j'avais construit ma rentrée dans la petite semaine qui m'était impartie. Et là, du jour au lendemain, on m'a dit, ah non, 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 c'est pas du tout comme t'as pensé qu'il faut que tu fasses. C'est comme on te montre là. Et la collègue disait, alors c'était 3 jours après la rentrée, disait que ça l'avait complètement déstabilisée, qu'elle était restée sur ce qu'elle avait prévu parce qu'elle n'avait pas tout eu envie de tout changer, etc. Voilà comment cet outil peut être utilisé et comment c'est répercuté chez les néo-titulaires. Voilà.
Alors à ceci près, c'est que ça peut être aussi le discours qu'on fait sur Néopass. C'est-à-dire que, enfin, moi, c'est ma diapo d'entrée quand je fais des formations dans les départements ou dans les académies sur où on nous demande de venir présenter Néopass. Et moi, j'ai pris cette caricature-là comme diapo d'entrée parce que ça, c'était l'article du Monde qui est sorti au moment de la rentrée, lorsqu'il y a eu la présentation de tenue de classe. C'est-à-dire qu'il y a eu un séminaire national. À Paris, Luc, ou à Poitiers. Il y a eu un séminaire national dans lequel le DGESCO et le ministre ont présenté le dispositif d'accompagnement des néotites, et dans, enfin des stagiaires, pardon. Et donc dans la recension qu'en a faite la presse, donc là il y a l'article du Monde, mais je pourrais vous montrer aussi, on a la vidéo du journal de France 2, où très clairement. Voilà, il y avait un dispositif global, c'était on forme plus les enseignants, on va leur faire voilà. Et le titre qu'a retenu Luc Sédel, c'était celui-là. Les jeunes enseignants apprennent à gérer leur classe grâce à des vidéos. Et lorsque on a discuté avec Sédel, qui est le journaliste Éduque du Monde, qui est loin d'être un touriste sur les questions d'éducation, il nous a dit mais c'est simple, il y a deux sortes de manières de considérer les profs. Il y a une plateforme qui prend les profs et les problèmes des profs au sérieux, et il y a une plateforme qui se moque d'eux. C'est clair que les spécialistes n'ont pas forcément fait l'amalgame en disant il y a des ressources, et puis il va y avoir de l'ingénierie de formation à faire, mais quand même, il y a eu un discours à la rentrée, qui est un discours global, qui est de dire... voilà. Et on est tous un peu plus ou moins pris dans ce maelstrom et dans cette difficulté-là, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi des gens à qui on a conseillé Néopass dans leur réunion de rentrée en académie, où on leur a dit, bah, si vous avez du mal, vous allez voir tenue de classe et vous allez voir Néopass et vous allez vous en sortir. Donc, comme on l'a dit déjà hier, nous, on considère que notre boulot, c'est de fournir des ressources aux néo et aux formateurs, sans attendre que la situation de pourrissement soit telle que ça déclenche une insurrection nationale. On considère que c'est notre boulot d'aider malgré tout. Mais on sait bien aussi que ce choix, il est discutable, parce qu'il demande beaucoup après aux personnes. Et que la logique qui consiste à dire « tout est pourri et faites sans moi », c'est une logique qui parfois... nous tente aussi, quoi, enfin dans la situation difficile, parce que quand il n'y a plus d'espace de formation, on se dit on peut mettre tous les outils qu'on veut, comment on fait quand même, quoi. Donc c'est vrai qu'on a tous une réaction, enfin quand on fait le passage benchmarking entre les deux plateformes, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une philosophie derrière qui n'est pas tout à fait la même, mais ceci dit, tu dis toi-même que lorsque tu as vu Néopass pour la première fois, tu t'es mis dedans, etc. Et je pense pas que tu as attrapé l'essentiel de ce qu'était le projet des gens qui l'ont fabriqué. Tu l'as dit. Enfin, et je pense qu'il faut le tenir. Encore une fois, les matériaux ne parlent pas de soi. Il n'y a pas de capacité magique des outils et des matériaux. Il n'y a que de l'intelligence et de la capacité des équipes de formateurs à fabriquer des situations.
pour compléter, enfin, moi, j'aime pas cette comparaison parce que je, enfin, j'insiste sur le fait que ce travail-là, il était non conjoncturel. C'est vraiment, ou en tout cas, c'est l'aléa des calendriers qui a fait que ça arrive quasiment au même moment. Nonobstant la remarque faite de Patrick sur la volonté de l'INRP quand même de montrer une certaine réactivité à un moment de détresse dans une zone de turbulence. J'ai quand même deux trois éléments d'analyse, c'est que, en tout cas de remarque, c'est que je condamne pas Sébastien Clerc. Parce que je considère qu'il a une posture à la fois courageuse et un peu quand même aidante, parce qu'il met en avant la professionnalité, ou il met en avant des gestes professionnels. Il essaye de mettre en avant tout ce qu'on ne dit pas ou tout ce qu'on a tendance à mépriser dans les formations. Alors ce que je j'aime pas du tout, c'est ce côté très universalisant du geste, faisant d'un petit geste un invariant, quelle que soit la situation professionnelle. Et là, il a aucune nuance, et c'est là qu'on peut l'attaquer fortement. Mais globalement, à un moment donné, qu'il ait voulu collecter, recueillir, aller voir des jeunes collègues, des profs de LP, enfin en tout cas, pour l'avoir côtoyé, avoir... je crois qu'il a l'impression de vouloir faire passer un message et de remettre cette part obscure du métier en avant, et en disant, voilà, on peut s'attacher à montrer ce qui n'est pas tellement... pour l'instant enseigné au niveau professionnel. Donc quelque part il contribue à travailler sur la professionnalité, si ce n'est que ça reste très caricatural. Alors je suis assez d'accord avec les analyses qui sont faites, ça donne quand même quelques pistes, ça nécessite, à mon avis, il faut travailler sur l'analyse critique, polémique, sur les controverses, et nous on a essayé d'insérer ou d'injecter directement les controverses dans notre plateforme. Puis après, je crois qu'on n'est pas exactement dans le même domaine, et je crois que c'est pas pour prendre de la hauteur et de nous positionner en tant que chercheurs, mais d'un côté, il y a un professionnel qui narre et témoigne de pratiques professionnelles, et puis de l'autre côté, il y a quand même des enseignants-chercheurs qui, pendant 5 ans, font 3 ou 400 heures de corpus vidéo pour sortir 3 ou 4 bouts de machin. Alors évidemment que notre travail fait peut-être plus profond, plus sérieux ou plus réflexif, mais on n'y a peut-être pas dépensé la même énergie non plus. Alors je pense que c'est deux façons de jeter un regard sur l'activité professionnelle. Je ne juge pas totalement, même si ça c'est caricatural ou totalement caricatural. Et sur deux heures d'intervention, il y a plein de choses pertinentes, mais qu'il va falloir pondérer en fonction des contingences même des situations. Et puis après, Patrick, est-ce qu'il faut considérer que on s'aperçoit, je suis monté au stade tout à l'heure par rapport à Neopass, que les gens, quand même, ils continuent de survoler sur le net, que ça reste quand même si on a 30 000 entrées, etc., ça reste des passages très ponctuels. Comment on fait pour accélérer ça? Comment on fait pour accélérer la possibilité de se former alors qu'il n'y a pas tant de formation? C'était les deux pics, ça a été au moment où on a communiqué les adresses, le journal de France 2, ça fait poum de nouveau une sorte de... Et après, s'il n'y a pas un relais de la formation, ça va complètement tomber comme ça, ou ça va être simplement repris dans les moments stratégiques, l'été, je pense, avant le travail dans la classe, ou en tout cas les premiers pas. Donc là, on voit bien qu'il y a à s'interroger par rapport à ça. Et puis, il faut 4 heures pour le premier thème. Alors peut-être qu'il faut envisager aussi des versions light. Moi, ça me gêne parce que j'aime bien cette profondeur des matériaux. Mais quand je vois que nos collègues d'Amiens arrachent de vidéos et font leur travail et job avec, je me dis que ce qu'on a présenté en 4 heures, c'est beaucoup trop. Et peut-être qu'il faut qu'on toutes nos vidéos de 8-9 minutes, on les ramène à 2-3 minutes, parce que ça... On peut arriver à retravailler, comme le font très bien dans les bandes annonces des fois, où c'est en gros précipiter, concentrer, avoir d'autres types de médias, alors que nous on a fait plutôt quand même une approche un peu ethnographique, où même Christian Bailly, qui était notre vidéaste, disait, je lui dis, là tu me coupes à 3 minutes. J'ai arrivé, il avait fait 7-8 minutes. Je lui dis, attends Christian, j'ai demandé 3 minutes. Il dit, ouais, mais attends, là, si tu commences à faire des coupures, tu comprends plus la cohérence, la pertinence même, la jeunesse de l'activité, il faut ces matériaux longs. Et lui était le premier à résister à ça, avec sa qualité de vidéaste. Bon, c'est des questions à la fois méthodologiques et théoriques. Et est-ce qu'il faut faire un thème 1 light? Oui, on peut. On peut, comme une bande-annonce, faire tchouk-tchouk-tchouk, 3 clics, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment aidant pour la formation.
Mais même si tu connais pas toute l'histoire, toi, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait que les formateurs de Créteil sont opérationnels à je sais pas quelle date, au 1er novembre, au 15 octobre, j'en sais rien? Qu'est-ce qui se fait dans le travail collectif des formateurs qui fait que c'est opérationnel dans votre travail? Je voudrais bien que si tu peux dire une demi-phrase de ça. Parce que
une demi-phrase, ça va être dur. Non, ça marche, oui. Déjà, je crois que Lucria est venu 2 années de suite sur Créteil présenter les vidéos sur une journée qui s'appelait Journée ZEPREP. sur lequel les formateurs étaient d'ailleurs présents, et les inspecteurs aussi, enfin tout le monde, oui. Ces amphis contenaient à peu près 500 à 600 stagiaires, et au moment des vidéos, nous avions un silence royal dans l'amphi. Oui, c'était... Oui, d'ailleurs, dans le bilan de cette journée de formation, l'intervention a été plébiscitée. Et nous, il y a 2 ans, nous rêvions tous, la formateur, de pouvoir récupérer les vidéos. Et donc, quand on a entendu parler de la plateforme et la possibilité de travailler dessus, on était beaucoup à avoir déjà suivi ces vidéos, à avoir entendu le discours de ces vidéos, sur ces vidéos, l'intervention. Donc, ça nous a intéressés. Et puis, il y a eu une commande institutionnelle sur Créteil. Le rectorat de Créteil a demandé à l'UFM de s'occuper de cette journée de formation transversale, cette journée filée. Avec un cahier des charges dans lequel il y a tenue de classe, gestion de classe et tenue de classe, qui a donc été donnée cette année pour les stagiaires à l'UFM. Et on a bien évidemment pensé tout de suite à l'utilisation de ces vidéos pour travailler sur cette partie du cahier des charges. Sachant que depuis, le ministre a dit qu'il fallait faire 3 jours. Justement, sur Créteil, on en a déjà fait 2, donc ça ne posera pas trop de problèmes. Et a priori, le recteur continue à nous donner ça à faire.
C'est-à-dire que les formateurs transversaux là ont été réunis encore, c'était en juin, où un certain nombre de collègues ont été réunis par la direction de l'UFM de Créteil pour retravailler sur, en gros, ce qu'on a fait un petit peu cet après-midi, c'est-à-dire maintenant qu'on a un bout de plateforme qui est disponible, qu'est-ce qu'on fait avec ça opérationnellement à la rentrée ? C'est-à-dire que il y a eu une genèse quoi importante, et quand je parlais de collaboration intermétier, c'est clair qu'il y a une collaboration entre le service de formation, le recteur, l'UFM, la direction de l'UFM. Dominique Gélin, on la cite pas, mais c'est vraiment une des personnes qui a été vraiment très importante dans tout ça.
Juste un mot sur l'arrivée de ces vidéos. Moi, alors bon, ça semble évident, mais avant de partir, c'est ce qui me vient quand même, puisqu'on les voit aller bout à bout. Ça me renvoie vraiment à... est-ce que c'est vraiment une coïncidence que ces vidéos arrivent à ce moment-là, au moment où la formation des enseignants est vraiment remise en question? Et je pense que c'est pas pour rien. Et je pense qu'il faut qu'on garde notre vigilance éthique, théorique, pratique de formateur pour maintenir le cadre de formation de qualité des nouveaux enseignants, pour ne pas basculer. Parce que très rapidement, je pense que dans le langage courant, on pourrait être amené à très vite convaincre que les vidéos peuvent suffire à former des enseignants de qualité, notamment vis-à-vis des parents. Et par rapport aux absences, etc.
On va garder ça comme mot de la fin. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que il y a 3 ans, dans l'Académie de Créteil, il y avait déjà des gens qui étaient au boulot sur ces objets-là. Et comme elle n'est pas là, je voudrais juste lui rendre hommage, parce que Françoise Caro, qui était là ce matin, et qui sera là demain encore, je pense, c'est la personne qui, à l'INRP, a structuré ce chantier de recherche, et qui a fait qu'elle a aggloméré des Ria, des Soja, des Rayou, des Christine Félix, des Dominique Bucheton, des Serge Leblanc, etc., qui font que, voilà, alors c'est pas juste la fine fleur, hein, mais c'est une équipe qui a pu créer une masse critique.